Chapitre 14. L'obscurité régnait lorsque Lucie longea le quai du port de plaisance Van Gogh à Asnières. Le vent soufflait par courtes bourrasques, saturées d'humidité et chargées des odeurs du fleuve. Elle passa devant les balançoires qui bougeaient toutes seules, les tables en bois prévues pour pique-niquer, tous ces endroits où Nicolas n'irait jamais avec son enfant. Les péniches brillaient dans la nuit, leurs cabines éclairées de lampions ou de guirlandes d'ampoules multicolores. Des familles vivaient là, libres de partir où et quand elles le souhaitaient. C'était d'ailleurs ce puissant sentiment de liberté qui avait poussé Nicolas Bélanger à investir dans une vieille fraissinée des années 70. Dans ce grand bateau, il s'était immédiatement senti bien et heureux. Au cœur de ce nid douillet, il avait rêvé de fonder un foyer. Lucie s'aventura sur les passerelles flottantes, gagna le pont et descendit dans le salon d'ordinaire si chaleureux, tout en boiserie, et qui ce soir-là lui parut glacial. Franck se terrait dans un fauteuil, un verre à la main. Une bouteille de whisky vide gisait près des chambres du fond, d'où provenait une respiration lourde et régulière. La porte d'à côté, légèrement entrebâillée, laissait apparaître un lit à barreaux surmonté d'un mobile fait de petits animaux joyeux. Lucie se souvenait qu'Audra lui avait demandé des conseils pour la décoration. Nicolas voulait à tout prix mettre du lambris dans la chambre du bébé, une idée qu'elle avait trouvée démodée, si bien que les matériaux déjà achetés étaient empilés là, dans un coin. Elle posa un sac sur la table, une pochette à élastique, et vint embrasser son mari avec tendresse. « J'ai rapporté des fruits, des yogourts et 2-3 boîtes de conserve. » Il a sifflé la moitié de la bouteille. J'ai dû l'aider à se coucher, il tenait plus debout. Je vais veiller toute la nuit au cas où. T'expliqueras aux jumeaux que j'ai du travail, que je les verrai demain. Et tu remercieras Jaya. On a de la chance d'avoir une nounou si souple. Je le ferai. Franck fixa son verre, l'agita pour faire danser le liquide ambré. Ses enfants lui manquaient. Après un long silence, il releva des yeux rougis. « Je suis allé voir Audra », confia-t-il d'une voix presque inaudible. « Elle est toujours aussi belle. Hormis les pansements autour de son crâne, elle est intacte. Tellement intacte qu'on dirait qu'elle dort. Ce n'est pas ça, la mort. » Lucie tira sans bruit une chaise et s'installa à ses côtés. Audra était partout, dans les cadres accrochés au mur, dans la couleur des fleurs, dans les parfums de miel et de menthe qui planaient encore dans la pièce. « La mort ne peut pas être aussi belle, » souffla-t-il. « Elle pue. Elle a le visage des chairs en putréfaction, des noyés gonflés qu'on sort de l'eau après des semaines d'immersion. La mort, tu le sais, ce sont ses corps raides et froids des salles d'autopsie. Pas ça. Son corps vit. Il donne la vie. » Comment il peut donner la vie s'il est mort? Je n'y comprends plus rien. Il en avait déjà vu des morts en 40 ans de carrière. Des femmes portant encore leurs bijoux et qui devenaient la proie des vers. Des hommes jadis solides, rongés par la pourriture jusque dans leurs os. Toujours laids, immondes. Il observa par la fenêtre face à lui. Des pétales de lumière dansaient à la surface du fleuve. Une invitation au voyage, à la flânerie. Lucie n'interrompit pas le silence tout de suite. Le drame que vivait Nicolas la ramenait à ses propres souffrances, notamment à la perte de ses jumelles dans des conditions effroyables 10 ans plus tôt. À son envie de mourir, elle n'arrêtait pas d'y penser depuis ce fameux soir où la vie d'Audra avait basculé. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » demanda-t-elle. « Ils vont statuer sur les 2 possibilités qui se présentent. » Débrancher ou tenter de poursuivre la grossesse. Avec tout ce que ça implique, Nicolas est convoqué après-demain pour faire part de son souhait. Sachant qu'il n'est pas décisionnaire, son avis n'est qu'un élément à prendre en considération dans une chaîne bien plus complexe. Lucie trouvait la situation abominable. Comment un homme dont l'existence venait de se briser pouvait-il faire un tel choix en si peu de temps? Comment pouvait-il accepter de dire adieu à celle qu'il aimait et qui portait son enfant de surcroît ? « Ils ne veulent pas que ça traîne, » continua Charcot comme s'il avait lu dans ses pensées. C'est très encadré, sans compter que tout ce qui touche à l'acharnement thérapeutique est susceptible de provoquer un embrasement. La campagne présidentielle a commencé. À mon avis, avec ces mouvements anti-tout qui ont leurs oreilles partout, ils veulent éviter que des questions sensibles ne soient remises sur la table. Ils pourraient débrancher Audra malgré la présence du fœtus? C'est légal de faire une chose pareille? J'ai demandé. La loi dit que le fœtus n'est pas un sujet de droit. Il n'est pas assimilé à un être humain. S'il fallait lui donner un statut, ce serait l'équivalent d'un rein greffé, dit le médecin. Un rein greffé? C'est à vomir. C'est la réalité. Le fœtus fait partie du corps de la mère, au même titre qu'un organe qu'on aurait introduit en elle. S'ils arrêtent les machines, il y aura mort fœtale in utero. Ce n'est même pas un féticide sur le plan juridique, puisqu'il n'y a pas d'action directe sur le fœtus. Le corps médical sera donc parfaitement couvert. Sur ces mots, il se tut et attrapa son verre. Lucie le lui prit des mains. Après une journée pareille, c'était elle qui en avait besoin. Un fœtus comparé à un simple rein. Jamais elle n'avait entendu une telle aberration. Ils burent, chacun leur tour, de longues gorgées silencieuses. Qu'est-ce que Nicolas veut faire? S'enquit enfin Lucie.
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais je suis incapable de lui donner le moindre avis. Pour dire quoi, franchement? D'élever un môme seul, sans sa mère? Tu le vois faire ça aujourd'hui? Alors quoi, il faudrait que je lui conseille d'accepter de débrancher Audra et par conséquent de tuer son bébé? C'est une situation impossible, il n'y a pas de solution.
Lucie fixa un instant le liquide doré. Pourtant, toi comme moi, on sait ce que pensait Audra de tout ça, dit-elle. On discutait de temps en temps des risques de notre métier. Elle a toujours dit que si un jour ça devait lui arriver, elle préférait partir. Pas de machine, pas d'acharnement, pas d'apitoiement. Elle n'aurait pas supporté d'être un légume. Tu crois que... qu'on devrait en parler?
En parler? À qui?
Au médecin.
On n'a pas à intervenir là-dedans. Et ce que je sais, moi, c'est qu'elle souhaitait cet enfant plus que tout.
Il se leva subitement et enfila son blouson, histoire de mettre un terme à cette conversation qui semblait l'excéder à présent. Puis il entraîna Lucie sur le ponton. Penchés par-dessus la rambarde, ils contemplèrent les lumières d'Asnières. Sur le pont en face, les phares des voitures. Partout, la vie continuait.
J'ai reçu un appel en off de Jeco, lâcha Franck. Selon toute vraisemblance, les gars de l'IGPN vont retenir la thèse du suicide en ce qui concerne Fermont, même sans le témoignage du conducteur du train. Ils ont pu récupérer les vidéos des caméras de surveillance installées à l'entrée et le long des entrepôts de l'usine de béton. Les images corroborent ce que je leur ai raconté. Je poursuivais un homme dangereux qui avait agressé l'une des nôtres dans le but de le neutraliser. Ma responsabilité sur ce qui est arrivé à Audra ne devrait pas être engagée.
C'est au moins une bonne nouvelle. Et tu réintégrerais quand?
D'ici à quelques jours. Début de semaine prochaine, sans doute. Mais en attendant, je ne veux pas qu'on perde de temps.
T'as pu te rencarder sur le fichage otage de Doty? Lucie alla récupérer sa pochette à élastique et lui relata les découvertes de Colin Manille. L'introduction dans l'IML d'Evreux de Doty pour prendre des photos d'un côté, la chute dans son escalier de Nathalie Charlier et son histoire de l'autre. Elle lui tendit ensuite des photocopies couleurs du visage pétrifié de celle-ci. Et Franck observa les clichés avec le même effroi qui avait saisi Lucie dans l'après-midi.
Comment le visage a-t-il pu se figer de la sorte?
L'explication scientifique, c'est le spasme cadavérique, un phénomène qui maintiendrait l'ensemble du corps dans la position exacte où il se trouvait juste avant une mort particulièrement violente. Un truc rare. La vraie question, finalement, ce n'est pas comment, mais pourquoi? Pourquoi une telle terreur dans ses yeux?
C'est elle que Doty est venu voir à la morgue, dit-il avec conviction.
C'est aussi ce que pense le gendarme. Comment t'en es si sûr, toi?
Le directeur du musée des moulages que j'ai rencontré connaît Doty depuis la fac. Il m'a confié qu'elle avait, elle aussi, survécu à un terrible accident qui a coûté la vie à ses deux parents, qu'elle avait échappé par miracle à la mort. Comme cette femme. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence.
Lucie marqua sa stupéfaction. Visiblement, Doty n'avait pas tout raconté à l'adjudant. Admettons, Mais pourquoi pénétrer illégalement dans une morgue pour photographier un visage ?
Ça, je n'en sais rien. Elle se documentait sur la mort depuis un bout de temps. Un sujet qui l'a perturbée, apparemment. À ce propos, moi aussi j'ai des photos à te montrer.
Aussitôt, Frank lui tendit les clichés sur lesquels apparaissait l'homme squelettique à la barbe blanche. À son tour, il lui raconta la teneur de son entretien avec Armand Oppenheimer.
« On dirait vraiment une main », constata Lucie en contemplant la marque dans le dos. « Une main de feu ?»« On voit tous la même chose. J'ai l'impression que ces recherches l'ont mené à des découvertes étranges, sérieuses, qui lui ont peut-être coûté la vie. »
Il regarda de nouveau le visage tordu de Charlier. Une image lui traversa l'esprit, le masque effroyable du tueur dans le film Scream. Il y avait des similitudes dans l'expression. Il chassa cependant cette vision de sa tête et se reconcentra sur le concret.
« Tu mettras bien au carré dans un PV ton entretien avec le gendarme. N'oublie pas d'évoquer cette histoire de visage tout de même, qu'on en garde une trace. Faut aussi que tu convoques le directeur du musée du moulage de l'hôpital Saint-Louis et qu'on prenne sa déposition. Dès mon retour, j'ai besoin d'avoir des billes auprès des magistrats s'il faut ouvrir une enquête pour disparition inquiétante en la personne d'Emma Doty. »
La rumeur de la ville les enveloppait. L'eau clapotait avec mollesse contre la péniche. Franck avait froid, mais un froid intérieur qui lui gelait les veines.
« Je veux démêler ce bordel. On doit savoir à partir de quand exactement Emma Doty n'a plus donné signe de vie. T'as lancé des requêtes auprès des opérateurs, banques, internet, médecins traitants ?
Tout est en route.
Dès que tu as des réponses, tu me rapportes les copies. »
Lucie serra les lèvres, silencieuse.
Ça pose un problème ? Questionna Charcot.
Oui, quand même. Tu pénètres illégalement chez des gens. Tu récupères des éléments d'enquête. Tu me demandes de sortir des infos. Tu abuses de ta fonction de flic pour faire parler des témoins. T'es off, Franck. Tu ne peux pas patienter le temps d'être réintégré, franchement. On n'est pas à quelques jours près.
Si. On est à quelques jours près, justement.
Parce qu'il y a un ou des salopards, à l'heure où je te parle, qui sont sans doute responsables de la disparition d'une pauvre femme, voire de sa mort, et qui sont tranquillement en liberté. Ces quelques jours près coûtent la vie à des gens.
Franck détacha non sans froideur ses mains de la rambarde et pivota vers l'escalier.
Tu devrais rentrer maintenant. Les enfants t'attendent. On se voit demain.
Et sans plus lui adresser un mot, il retourna en enfer.